jusqu'à 9h30. Jusqu'à 9h30. Vous écoutez Que la Mauricie se lève.
Que la Mauricie se lève.
Catherine Le Matin. Voici Catherine Gaudreau.
Je pense qu'à chaque fois qu'on a ramené dans l'actualité ce dossier de Michel Cadotte, elle est toujours présente pour commenter. Bien sûr, elle offre des soins, de l'accompagnement aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs proches. C'est la mission de la maison Carpe Diem. Bonjour, Mme Poirier.
Bonjour.
Bonjour. Je me souviens, il y a de cela quelques mois, vous nous aviez dit encore sur nos ondes, on va faire attention. On va y penser deux fois avant de juger Michel Cadotte. Avez-vous le même discours aujourd'hui, Mme Poirier?
Oui, oui. Ben, en fait, je pense que le jugement démontre bien que son geste, c'est un geste qu'il ne faut pas encourager, et la sentence est claire là-dessus, et on va pas dans ce sens-là, mais on voit bien que ça pourrait être considéré comme un geste symptôme d'une grande problématique dans notre société, de bien accompagner les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et des personnes qui deviennent vulnérables, qui deviennent incapables de se défendre par elles-mêmes. Et plus la vulnérabilité est grande, plus la détresse des proches est grande aussi. Et c'est ça beaucoup que cette situation-là fait ressortir. Ça n'excuse pas le geste du tout, mais ça nous incite à réfléchir sur qu'est-ce qui a mené cet homme-là qui, en tout cas pour moi, on a parlé d'un geste unique, mais ce qu'il vivait lui, des centaines et des milliers de personnes le vivent aussi au quotidien. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre la lumière.
Oui, parce que justement cette détresse-là, cette vulnérabilité-là, probablement que vous la croisez souvent via les personnes, les proches de ces gens-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Parce que bon, là, la sentence est tombée, c'est une chose, mais en bout de ligne, Mme Poirier, il faut se questionner là, sur la suite des choses, sur comment on accompagne nos personnes en fin de vie. Est-ce qu'on doit élargir le débat?
Ben, d'abord, moi, je pense qu'on n'est pas prêt. On peut y réfléchir et en parler, mais comment peut-on parler de l'aide médicale? Vous parlez de l'aide médicale à mourir. Je pense que il faut d'abord mieux connaître la réalité des personnes qui sont dans cette situation-là de maladie. On comprend très mal encore leur réalité, parce que je lisais ce matin dans le journal que la dame était sous contention à cause de son errance, donc à cause de sa capacité à marcher. Et ça, déjà, de créer des lieux où je ne mets pas en question les services et les soins de l'établissement, mais ce que je dis, c'est que il faut créer des lieux d'abord où cette capacité de marcher qui est considérée comme de l'errance, ça ne sera pas vu comme un problème et comme quelque chose qu'on doit contraindre. Et en faisant ça, évidemment que ça, c'est extrêmement souffrant pour les proches. Quand ils voient ça, ils se sentent coupables, ils se sentent impuissants, puis ils voudraient que ça change. Et ça, c'est tout un cercle vicieux qui se crée et qui fait qu'en bout de ligne, on dit, mais il faudrait que ça cesse. Moi, ma mère aussi a eu la maladie d'Alzheimer. Ouais. Et moi aussi, je me suis dit, ben j'espère que ça ne durera pas longtemps. Tout le monde y pense, parce que personne ne veut prolonger ses souffrances, ben, cette vie-là. Et moi, je pense qu'il faut d'abord miser sur une amélioration des conditions de vie. Ça va avoir un impact sur la détresse des proches aidants. Et ensuite, ben évidemment, après, ben on verra quel est le lien qu'on peut faire avec l'aide médicale à mourir. Parce que il faut se dire que amener l'aide médicale à mourir à une personne qui n'est plus apte à changer d'idée. Parce que là, le droit de changer d'idée, le droit de dire oui, plus tard, je voudrais telle décision pour moi, mais si sa condition change, personne ne sait de quelle façon la maladie va évoluer. Mm-hmm. Il y a des gens qui disent, moi, si je ne reconnais pas mes proches, oui, ils ne reconnaissent pas leurs proches, mais ils reconnaissent la personne d'à côté. Ils ont créé des liens avec elle sans nécessairement la reconnaître. Et puis, c'est quoi la reconnaissance? Les recherches montrent que même en fin de vie, il y a une forme de reconnaissance. Comment on va faire pour appliquer des directives anticipées? Puis ensuite, l'autre chose, c'est de dire, ben, je donne à une tierce personne la responsabilité de décider qu'aujourd'hui, c'est terminé. Quand on sait que la maladie, même si vous êtes en dernière étape de la maladie, vous n'êtes pas en fin de vie. Ouais. Alors, faire peser sur les épaules d'une personne cette décision-là, c'est invivable. Alors, imaginez-vous dans les familles, les recours en justice qu'il y aura, les conflits aussi que ça va créer. Je me dis, pourquoi mettre toute cette énergie-là quand on pourrait la mettre dans l'amélioration de l'accompagnement des proches qui va aussi de pair avec celle des personnes qui sont malades.
Est-ce que jusqu'à maintenant, dans ce que vous observez, est-ce qu'il y a, il y a une lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire justement dans la compréhension, dans l'accompagnement de ces gens-là, et même juste de dire, OK, voici ce qu'ils vivent au quotidien. Sentez-vous que politiquement, que socialement, qu'on améliore les choses au moins pour comprendre et écouter ces gens-là? Trouvez-vous qu'on s'améliore un peu?
Bien, je pense que le gouvernement actuel, en tout cas, démontre une volonté claire de mieux accompagner les proches aidants. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura dans la politique? Il faudra qu'on y travaille. Bien, je vous donne un exemple. On les accompagne beaucoup à domicile. Oui. Il y a beaucoup de subventions pour l'aide aux aidants à domicile, mais quand ils se retrouvent en établissement, cette aide-là n'est plus accessible et ils en vivent de la détresse. Et les personnes qui ont des idées comme celle de M. Cadotte, même s'ils ne passent pas à l'acte, sont souvent en établissement. Donc, il faut aussi que cette aide-là soit continue. Je pense aussi au projet de Mme Blais, des maisons des aînés. Cette idée-là, elle peut être très porteuse d'une approche nouvelle, d'une façon différente de faire les choses, qui va aider à la fois les proches et les personnes. Il ne faut pas séparer les deux. Mmh. Je pense que les deux vont taire. Je me souviens, moi, quand ma mère était bien, mais moi, j'étais bien. Alors, j'avais pas besoin qu'on m'aide, moi. J'avais besoin que je sente ma mère en sécurité et aussi bien accompagnée. Donc oui, là, en ce moment, dans le discours, il y a beaucoup d'espoir. Et contrairement à ce qu'on a vécu, je pense qu'on a pris beaucoup de retard dans les 20 dernières années en ce qui concerne l'accompagnement de nos personnes âgées, les conditions de vie. Mais là, oui, il y a une forme d'espoir. Je pense qu'il faut donner la chance au gouvernement d'aller de l'avant.
OK. Madame Boyer, je vous écoute ce matin, puis clairement, parce que vous dites, bon, l'aide, c'est une chose, l'aide à domicile, elle est là, mais à partir du moment où la personne est en établissement, l'aide, elle n'est plus disponible. Là, si on crée des maisons des aînés, il faut que l'aide suive. Ça vient avec, Madame Poirier. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça encore?
Bien, les politiques gouvernementales souvent fonctionnent par enveloppe. Ouais. Alors, il y a des enveloppes pour le maintien à domicile, et puis quand la personne passe en hébergement, ces enveloppes-là ne suivent pas. Mais je pense que ça ne serait pas compliqué de le faire suivre, mais dans un projet d'établissement comme les maisons des aînés ou même les CHSLD, il pourrait facilement y avoir à l'intérieur de ces maisons-là une ressource psychologique qui est là pour détecter, faire de la prévention, aider les personnes qui vivent une usure. La maladie, c'est pas une maladie qui dure un an ou deux, ça peut durer des années. Puis parfois, la détresse, puis l'incompréhension, le désespoir, ça vient avec l'usure. Donc, il pourrait y avoir des ressources dans les établissements qui détectent qui les aident d'une façon continue. Mmh. C'est pas compliqué. On demande pas de la haute technologie médicale. Là, on demande un accompagnement humain, compréhensif, une écoute. Ce monsieur, il a répété souvent qu'il se sentait seul. Même si on dit qu'il y avait des gens, tu peux avoir une aide qui est concrète, mais tu peux te ressentir la solitude et la détresse quand même. Ouais. Donc, il faut faire plus que annoncer une aide. Il faut pousser la porte un petit peu quand elle s'entrouvre.
Madame Poirier, merci d'avoir été là avec nous ce matin.
Et merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler.
C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir.
Directrice générale de la maison Carpe Diem, donc une maison qui vient en aide, qui offre de l'accompagnement aux personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs proches, toujours très pertinente.